Immersion.
Un reportage de Radio Présence.
Mais comment faire pour être heureux ?
Alors qu'en France, la parole se libère, alors que les victimes de viols et d'inceste osent de plus en plus briser la loi du silence, je vous propose de réécouter aujourd'hui un reportage réalisé en 2017, Le Monde à travers un regard. Une association qui, dans de nombreuses villes de France, dont Toulouse, anime des groupes de parole autogérés et non thérapeutiques pour les survivants de l'inceste et de la pédocriminalité, ainsi que pour leurs proches. Toulouse, 8 février,
bonjour.
Rue du Pont des Demoiselles, au siège de l'association Le Monde à travers un regard, avec Marie, Nani, Agnès et David.
Salut. Salut. Plaisir, ça va.
Salut Marie.
Salut.
Allez, bisous.
Il serait temps qu'on arrête de minimiser et de faire comme si cette violence-là n'était pas grave. Genre, quand je regarde le monde, partout, ils parlent de la violence économique, de la violence de la politicienne, de la violence sur les agressions dans la rue, sur même la violence faite aux femmes. Enfin, la violence faite aux femmes, elle commence avant qu'elles soient des femmes, hein, justement, et pas qu'aux femmes. Malheureusement, du coup, donc aux enfants, la violence faite aux enfants, mais la violence sexuelle faite aux enfants en général, de n'importe quel âge, jusqu'à que nous devenions des adultes ou post-enfants ou des ados ou enfin, pour une raison X, on a un peu de liberté, s'il peut nous en rester, et toujours, enfin, ce que j'entends le plus, ouais, mais faut pas parler de ces choses-là. Comment ça, faut pas parler de ces choses-là? Mais bien sûr, faut le crier dans tout le monde entier. C'est une des violences les plus répandues que la guerre. Hein. La guerre, elle fait des morts. Et la pédocriminée, elle fait des morts qui sont encore en vie. Ça donne des morts vivants qui doivent arriver à vivre. Et justement, on leur dit, non, mais c'est pas grave, c'est le passé. T'as qu'à avancer. Mais en fait, mets ton petit mouchoir dessus. C'est comme sur les bobos. Tiens, fais un bisou, ça va aller, ouais.
Bisous magiques.
Ouais, le bisou magique. Justement, on les a eu, les bisous magiques, ils ont été super magiques. Donc voilà, il est temps que le monde entende, mais vraiment, enfin, et qu'il y ait des espaces de liberté de parole avec ce thème-là aussi, et dans, alors, en France et dans le monde. Mais c'est déjà commençant par la France, puisque nous y sommes.
Créée en 2009, l'association Le Monde à travers un regard est une association de lutte et de prévention contre l'inceste et la pédocriminalité. Elle propose des groupes de parole autogérés, des ateliers d'écriture et d'expression artistique qui n'ont pas de vocation proprement thérapeutique, comme nous le dira Marie à Toulouse, présidente de l'association. Des groupes de parole, des ateliers qui pourtant sont essentiels. David.
Ça sert à, avant tout par rapport aux groupes de parole à libérer la parole, à permettre aux gens qui ont vécu dans la honte et dans le silence pendant des années de pouvoir parler. Et ça, c'est la mission principale du groupe de parole, c'est vraiment de dire, de lâcher tout ce qu'on a à lâcher et de pouvoir un petit peu lâcher le fardeau qu'on a en soi, en fait. On s'enrichit de la parole des autres, on essaye de tirer parti des expériences des gens qui sont avec nous dans le groupe, mais on est aussi des parlants, on a besoin de parler, Parfois, le débit est impressionnant, on n'arrive pas à lâcher la parole parce que c'est quelque chose qui a tellement bloqué en nous que vraiment la parole s'exprime et ne veut plus s'arrêter, quoi. C'est comme une cascade d'émotions et de mots qui ne s'arrêtent plus.
Et je dirais qu'en fait, l'intérêt un peu du groupe de parole, c'est une sorte d'émulation. En fait, souvent, il y a quelqu'un qui enclenche, qui parle d'un sujet donné.
Agnès.
Et on se rend compte, ah, c'est bien, je croyais que j'étais toute seule à ressentir ça. Et ben, en fait, non, on n'est pas le seul. Et c'est vraiment l'avantage du groupe de parole, c'est que il va y avoir donc bon après le début peut monter, mais on se sent ça permet de lâcher, mais on se sent moins seul, quoi. L'idée c'est vraiment de il y en a un qui lance une idée et puis tout d'un coup on se dit ah bah c'est bien, moi je pensais la même chose, je ressentais la même chose, je me disais je suis un monstre, je suis bizarre et tout, et en fait non. C'est donc ça aide un petit peu. On est plus là pour se libérer finalement. Moi personnellement, je suis pas venue pour écouter, je suis pas formée à l'écoute du tout, et pour l'instant, je me sens pas d'écouter en dehors du groupe de parole. Mais l'idée, c'est vraiment de libérer la parole, tout simplement. Quoi.
Chacun apporte son témoignage, et les échos de chaque témoignage nous apportent de la richesse et nous permet de nous exprimer soi-même. Et c'est vraiment une écoute mutuelle. Entre personnes qui, malheureusement, ont une expérience qui est commune. Mmh. Et on se rend compte qu'il y a vraiment des traits communs à chacun de nos histoires.
Souvent aussi, chacun avec sa... Mmh. On a un chemin de vie qui est différent, une expérience commune, mais différente.
Nanou.
Et chacun avec une idée de solution pour surmonter un truc, un machin. Et comme on les échange, on se dit, tiens, ah oui, je pourrais faire ça, je peux essayer ça. Tiens, tu peux essayer ça. Moi, j'ai fait ça, ça m'a fait du bien. Je fais comme ça, ça fait du bien. Je fais ça. Et rien que d'avoir un espace pour mettre des mots sur nos mots, ça aide à avancer. Hein. Parce que c'est comme une reconnaissance, enfin. Moi, depuis tout le temps, on m'a dit, ouais, tu l'as cherché. De toute façon, c'est ta faute. Enfin, toutes les... Hein, je ne nommerai même pas les sans nom de ce qu'on raconte comme les stéréotypes et les avec un gros saut au départ de bêtises racontées, mais du coup dans cet espace là on se reconnaît en tant que il y a personne qui va nous dire tu l'as bien cherché, même pas ça nous vient à l'esprit, quoi, même pas partout ailleurs. Il y a ce soupçon. En fait, on subit des violences sans nom et c'est nous qui portons la honte. Je trouve ça assez extraordinaire comme méthode. Nous les victimes, entre guillemets, mais malheureusement quand même victimes. Et au bout du compte, c'est nous qui avons la honte. Il est temps que ça change et que eux portent la honte de leurs horreurs. Et que nous, on soit enfin libres. Et que nous et... les milliers d'autres dehors qui attendent de pouvoir avoir un espace de parole et de bol d'air et un peu de liberté, parce qu'enfin, on peut poser ça quelque part et personne n'emmène. On le laisse là. Et ça, c'est franchement, c'est grand temps, quoi, pour nous et pour d'autres.
Moi, je voulais ajouter que le fait de se retrouver dans un groupe où voilà, on a tous vécu la même chose,
Marie.
Même si, comme le disait Nanou, il y a des histoires singulières de chacun. Il n'y a pas de jugement sur toutes les conséquences qu'on peut avoir et le mal-être qu'on trimballe, qui est trimballé quand même pendant des décennies pour certains. Et ce jugement, il n'existe pas parce que finalement, on se reconnaît un petit peu entre nous. C'est un petit peu comme si c'était un peu comme un monde à nous et une bulle, en fait, une bulle d'air à l'intérieur du monde extérieur qui au mieux ne comprend pas pourquoi on n'arrive pas à se construire et à construire une vie comme tout le monde. Ça, c'est dans le meilleur des cas parce que la plupart du temps, il y a quand même du jugement. Et c'est ce qui fait qu'on en arrive aussi à se culpabiliser et à porter cette honte. Effectivement, la honte, il est temps qu'elle change de camp.
Moi aussi, j'ai eu droit, c'est de ta faute.
Agnès.
Pourquoi t'as pas réagi autrement? Enfin bon, les poncifs, des trucs qui font un mal phénoménal et que du coup, on se dit finalement, on n'a plus envie de parler. Parce qu'on se dit, si c'est pour se prendre ça dans la gueule, on préfère fermer...
Un mur d'incompréhension.
Oh, un mur... Oui, il est... Il est en béton armé, blindé, en gros, voilà. C'est même plus un mur.
Oui, il y a vraiment un mur d'incompréhension. Ouais. Et les gens n'imaginent pas que la plupart du temps, la pédocriminalité, c'est surtout de l'inceste. Donc c'est dans la sphère familiale. On imagine souvent que c'est le monsieur dans le parc qui donne des bonbons. Non, malheureusement, ça arrive beaucoup plus souvent dans la famille que le monsieur qui donne des bonbons dans le parc. Ça se passe dans la famille. Donc du coup, c'est en même temps les personnes qui vous servent de modèle, qui vous apprennent un modèle qui n'est pas bon, avec des repères qui sont complètement faux. Et ces repères qu'on acquiert, il faut les désapprendre et en apprendre de nouveau. Et c'est ça qui est très compliqué et qui prend du temps.
Tous les enfants des droits, mais aussi des devoirs, tous les parents des devoirs, mais aussi des droits, le droit de savoir dire non, pas nous aussi on dit non.
L'association Le Monde à travers un regard accueille uniquement des adultes qui sont la plupart du temps dans le cadre d'une démarche personnelle.
La plupart du temps, c'est une démarche personnelle, oui. Oui, oui.
Marie.
Et donc, ils nous ont contenus la plupart du temps à travers le site internet. Après, ça peut être aussi par personne interposée. Je crois qu'il y a certaines personnes qui en ont parlé dans leur sphère privée et qui ont après amené des amis, une amie ou un ami. Mais on n'est pas, on travaille pas en lien étroit en fait avec les services sociaux ou avec le monde médical ou paramédical. Voilà, donc c'est exclusivement en fait une démarche personnelle.
Dans ces groupes de parole, vous accueillez combien de personnes ?
C'est très variable en fait. On va jusqu'à 12 pour permettre à chacun de pouvoir s'exprimer parce qu'au-delà, en fait, ça ne sera pas possible. Le temps de parole par personne, il ne serait pas assez long. Et après, ça va être variable, en fait, suivant les thèmes, puisqu'on a un thème sur lequel on va s'exprimer à chaque fois. C'est comme un guide qu'on n'est pas forcément obligé de suivre à la lettre, mais c'est plus un guide, en fait, pour nous permettre de libérer cette parole et en même temps, ne pas partir trop dans tous les sens, parce qu'il y a énormément de choses à dire, voilà. Ça structure un petit peu. Et donc, je pense, il y a certains thèmes qui... n'inspire pas forcément les gens. Donc du coup, c'est pour ça que les gens ne viennent pas forcément de manière, régulière. C'est en fonction des thèmes. Après, c'est un outil dans un chemin thérapeutique, le groupe de parole. Et suivant l'avancement dans lequel on se trouve, on n'éprouve pas forcément le besoin de venir au groupe de parole pendant une certaine période. Et puis, on peut revenir... Voilà.
Une liberté.
Oui, tout à fait.
Il n'y a pas d'engagement.
Non, il n'y a aucun engagement. C'est une fois par mois, voilà, tout à fait. Mm-hmm. Et comme l'atelier d'écriture qu'on fait à la suite et en gardant le même thème, c'est pareil, il est une fois par mois. Voilà.
Des personnes qui viennent, bien évidemment, d'horizons très, très différents, mm-hmm. d'âges divers, et, oui. qui viennent à des moments particuliers de leur vie, bien après avoir subi tous ces sévices.
Oui.
Il a fallu du temps, oui. un long cheminement, pour oser venir oui. en parler. Pour certains, parfois, c'est la première fois qu'ils en parlent.
Oui, je pense que c'est... c'est pas forcément au tout début, en fait, du moment où on prend conscience de ce qu'on a subi, mais c'est effectivement dans les débuts. Est-ce que c'est la première fois que les personnes en parlent ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est pas au tout début, mais pas très loin du début quand même. Mmh. Voilà, je pense. Bon, après, je ne peux pas généraliser. Effectivement, c'est un moment particulier quand même dans l'avancement.
Il y en a qui l'ont gardé enfoui pendant des années.
Oui, ça, il y a des gens qui l'ont gardé effectivement vraiment pendant de très très longues années, puisqu'il y a des personnes qui arrivent à plus de 60 ans et qui, commencent à parler, après 60 ans. Donc la pédocriminalité, ça, à 60 ans, ça fait longtemps qu'on n'y est plus dedans. Et donc oui, il y a des gens qui l'ont gardé pendant très longtemps. Parce que des fois aussi, il y a la mémoire met un... comment on appelle ça, c'est une anesthésie. Et tout d'un coup, à un moment ou à un autre, les images reviennent ou parce qu'on a fait un travail ou parce qu'il y a un mal-être qu'on cherche. Enfin, il y a un moment, il y a des choses qui reviennent et effectivement, souvent, les gens cherchent où aller parler, voir, rencontrer d'autres gens qui ont vécu malheureusement les mêmes choses. Ou heureusement, parce que comme ça, ils sont plus tout seuls. Dans le malheur, il reste un bout d'espace, de bol d'air qui sont les groupes de parole. Et c'est vraiment, pour la plupart des gens, un grand bol d'air. Au moins une fois par mois, quand ils ont réussi à nous trouver.
À travers un regard, participe également à la prévention, à la sensibilisation du grand public par différents moyens, conférences, pièces de théâtre, films, concerts. De nombreux artistes se mobilisent, comme la pianiste Shona Luxova.
Écoutez, je pense que quand on a subi les traumatismes que les membres de l'association ont pu subir, ou quand on a une autre maladie en général, ça touche l'être physique. Et ça touche aussi l'âme, et je pense que la musique est susceptible de pouvoir toucher l'âme et la guérir, la soigner. Et la musique, pour moi, a toujours été un moteur pour aider les autres également. Et cette association me tenait particulièrement à cœur parce que j'avais un de mes élèves qui faisait partie de cette association. J'ai rencontré la présidente de cette association et j'avais envie, à ma manière, de les aider.
Et donc des liens se sont tissés ?
Oui, des liens se sont tissés et je pense peut-être que ça se sentira dans ma manière de jouer le jour du concert.
Il est évident qu'un enfant qui n'arrive pas ou ne connaît pas les mots pour décrire une situation aussi inattendue et brutale qu'un viol ne s'exprime pas. Certains vont mettre des années, des dizaines d'années avant de parler. Nous sommes dans un système qui minimise le viol sur mineurs dans les actes, nous diront les membres de l'association.
Dans mon cas, dans les copines que j'ai autour, je suis à entre 80 et 90% des copines qui ont subi des violences sexuelles plus ou moins jeunes. Les garçons, ils en parlent encore moins. Déjà, les filles, elles n'en parlent pas. Les garçons en parlent encore moins. Mais si, je considère, puisque quand on fait des sondages là, si moi, c'est 80% de mes copines, ça fait un nombre de femmes assez phénoménal, rien que sur Toulouse, en France. Voilà. Alors, voilà, dans les garçons, il y en a quelques-uns, enfin, voilà, j'en connais aussi, qui parlent encore moins que les filles, je l'ai su comme ça, hein. Donc le pourcentage est énorme, et quand ils parlent de 12% des femmes, ils me font bien rigoler, on est plus près des 70% de femmes et de 40% d'hommes de ceux qui ont commencé à parler. Donc quand on en sera à l'ouverture, de justement, je crains les pourcentages.
David, c'est difficile d'arriver jusqu'ici.
La première fois, ça a été très dur. J'ai failli rebrousser chemin avant de venir. Et parfois, sur certains sujets, chaque semaine, chaque mois, c'est aussi difficile. On se demande toujours si on doit venir ou pas. Surtout qu'après chaque groupe de parole, on libère quand même des choses qu'on a enfouies pendant très longtemps. Et souvent, juste après ce groupe de parole, on a des contre-coups qui sont assez difficiles à vivre. On se dit, est-ce que ça sert vraiment de parler? Est-ce que ça va pas me faire plus de mal que de bien? Et finalement, à long terme, on se rend compte des bénéfices qu'on reçoit de libérer la parole. Mais sur le court terme, c'est assez difficile. Mais effectivement, je rejoins ce qui a été dit. Je pense qu'il y a très, très peu de gens qui ont subi des agressions sexuelles dans l'enfance qui font le pas de parler, de venir dans un groupe de parole ou d'aller porter plainte. Je crois que la part des gens qui portent plainte, c'est vraiment c'est ridicule. C'est un pourcentage ridicule. Et les condamnations de ceux qui ont porté plainte, c'est encore plus ridicule. Donc au total, on a l'impression que la société se banalise ce genre de choses et ne considère pas ça comme quelque chose d'horrible et de très grave, quoi.
Oui, moi je voulais confirmer, effectivement. C'est le pourcentage de personnes qui déposent plainte, effectivement, il est très faible. Je ne l'ai plus en tête, mais je crois que ça n'atteint même pas 10%. C'est très peu. Il y a une réticence aussi à avouer ça, surtout quand on l'a vécu dans la famille. Parce que qui dit déposer plainte dit forcément une enquête. Mmh. C'est quand même révéler quelque chose sur sa famille qui est compliqué. Puisque c'est mettre en lumière ce qu'on a vécu. Et on n'est pas forcément le seul à l'avoir vécu. Mais c'est un petit peu comme lâcher une bombe. Il y a quand même des retombées parfois atomiques. Hein, quand on, voilà, c'est un lâcher de bombe dans la famille. Enfant. C'est difficile, quand on est enfant, de se rendre compte que c'est quelque chose d'anormal, puisque la plupart du temps, on vous explique que non, c'est normal, ça se fait partout, mais juste, on n'en parle pas. Et un enfant, il ne peut pas savoir ce qui est normal de ce qui n'est pas normal, puisqu'il est en construction. Et si les parents ou l'entourage très proche, familial, lui explique que c'est normal, lui, il n'a pas d'autres modèles. C'est pour ça que la parole, c'est pour ça qu'elle se libère à l'âge adulte. Ou parfois à l'adolescence, quand il y a une comparaison, quand l'enfant ou l'adolescent vit dans un milieu quand même relativement ouvert. Mais c'est pas la majorité des cas. La majorité, la parole se libère à l'âge adulte, parce que il faut arriver à prendre conscience qu'on a vécu ça, que c'est mais vraiment anormal, que c'est pas que c'est grave, et que après, il y a l'autre démarche, c'est le verbaliser. D'abord, souvent, c'est l'entourage proche et pas forcément familial. Après, le verbaliser dans la famille, ça reste quand même compliqué. Et puis après, encore une autre démarche, c'est la plainte, avec toutes les conséquences que ça peut avoir.
Si les parents pouvaient faire que du bien à leurs enfants, on ne serait pas là. Et tout ceci n'aurait pas lieu d'être. Il n'y a rien pour moi. Si les parents pouvaient faire que du bien à leurs enfants, il n'y a pas d'enfants qui seraient morts sous les coups, sous les violences, sous les tortures. Il n'y aurait pas d'enfants placés à la DAS. La DAS n'existerait pas non plus. Du coup, voilà.
Oui, non, pour revenir justement sur ce caractère sacré de la famille et des parents, c'est ce qui rend les choses très difficiles pour l'enfant. C'est que, en fait, pour un enfant, ses parents, c'est comme... Enfin, les enfants ont tendance à déifier leurs parents. Pour un enfant, ses parents, c'est le protecteur, c'est la personne nourricière et tout ça. C'est très compliqué de mettre en cause ses parents quand on est enfant. Et c'est ce qui crée justement la honte et la culpabilité plus tard. C'est de se dire, non, mais mes parents n'ont pas pu me faire quelque chose de pareil. J'ai dû faire quelque chose de mal. Voilà. Et puis, il y a un renversement de la culpabilité. Comme mes parents ne peuvent pas être ces monstres, il doit sûrement y avoir quelque chose en moi qui a provoqué cette monstruosité. Et c'est ce qui crée souvent chez l'enfant le mal-être, c'est-à-dire qu'il y a un renversement de la culpabilité qui se joue.
David, aujourd'hui, n'est plus de ce monde. Mais n'oublions pas qu'il n'appartient pas seulement aux victimes de se battre contre ces fléaux de santé publique. C'est le devoir de chacun de nous, que l'on soit proche des victimes ou professionnel ou simple citoyen. Vous trouverez informations et témoignages sur le site le monde à travers un regard tout attaché.org.